Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission des Landes et du Ciel. Émission proposée par l'Astroclub du Marsan pour vous faire découvrir notre univers. Je me présente Yves De Angeli et pour m'accompagner aujourd'hui, Christian, membre de l'Astroclub du Marsan.
Bonjour.
Nous allons revenir dans le passé et explorer les méthodes que les ancêtres ont utilisées pour comprendre, mesurer et utiliser le ciel, pour améliorer leurs connaissances, mais aussi pour leur vie quotidienne. L'ingéniosité a toujours été une qualité qui a permis de faire bouger les lignes et se poser les questions qui font avancer la science. Après avoir remarqué qu'il y avait des choses qui bougeaient dans le ciel, les hommes ont essayé d'utiliser ces caractéristiques à leur profit. Le premier instrument d'observation recensé est le gnomon.
C'était quoi ?
C'était un instrument très très complexe, c'était un bâton planté dans le sol. Littéralement, ça signifie qu'il discerne, qu'il règle, une chose permettant à quelque chose d'être connu, observé ou vérifié. Tout le monde a expérimenté, tous les enfants ont expérimenté les ombres, que ce soit à l'école primaire, donc en CE ou CM. Et ils ont tous vu que le soleil projetait une ombre si on plantait un bâton. Alors l'histoire de ce gnomon, ça remonte à l'Antiquité, que ce soit dans le bassin méditerranéen ou en Chine. Les différentes positions du gnomon, les différentes utilisations, ça permettait de définir la course du soleil dans l'année, ça permettait de déterminer la longueur de la journée, les instants du midi, les endroits où le soleil allait se coucher, les points cardinaux, déterminer les solstices et les équinoxes, la durée de l'année. Donc de suite, les premiers scientifiques, les premiers astronomes ont compris qu'il y avait un cycle qui était naturel et on se retrouvait en fonction des saisons avec des ombres qui étaient des fois très très longues ou des fois très très courtes, des ombres qui apparaissaient complètement à l'est ou au sud-est ou qui apparaissaient au nord-est en fonction de la saison. Donc ils ont pu réussir à partir de cet instrument qui était tout bête, qui était un bâton planté dans le sol, ils ont quand même pu réussir à déterminer tout un ensemble de données astronomiques simplement avec l'utilisation de cette ombre. Alors on va retrouver des gnomons, on va retrouver un peu partout et surtout cette utilisation qu'on pense être, mais c'est pas vérifié à 100%. Par exemple, pour Néandertal, on a retrouvé les tombes qui étaient tout le temps orientées sur Est-Ouest. Sur Stonehenge, les pierres levées de Stonehenge, elles sont toutes orientées sur un certain axe. Les pyramides de Gizeh aussi, elles ont un axe particulier qui a pu être déterminé justement par l'utilisation de ces ombres. Et en Chine, on va retrouver pareil les palais dans la cité impériale qui sont tous orientés sur des axes qui sont des axes de est-ouest ou nord-sud. Alors, on a retrouvé la première utilisation vraiment directe. C'est en Égypte, il y a des gnomons qui sont en forme de L avec un petit bâton et des éléments gradués qui permettaient de déterminer des heures et qui permettaient de déterminer le fonctionnement de la société. Donc, pour l'instant, c'était relativement empirique et puis... après, Thalès est arrivé, les mathématiques. Donc tout le monde connaît Thalès, tout le monde connaît Pythagore. Donc ça laisse des bons souvenirs ou pas. Mais ces théorèmes ont été utilisés pour faire des mesures. Et par exemple, en utilisant Thalès, on pouvait facilement mesurer la hauteur des pyramides, simplement en mesurant leur ombre. On connaissait la base. On voyait l'ombre qui était portée à un certain moment de l'année et on pouvait déterminer que la pyramide ou que l'objet avait une certaine hauteur. C'est ce qu'on appelle les distances ou les dimensions inaccessibles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller les mesurer. Mais en utilisant ce principe d'ombre, on peut réussir à faire énormément de beaux calculs et situer des objets. Par exemple, il y avait un Phytéas qui était un explorateur qui a donné, par ce calcul, la latitude de l'antique Marseille, de Marseille. Et la latitude que lui a trouvée, il a donné une latitude de 43 degrés 15. Et actuellement, officiellement, c'est 43 degrés 18. Donc simplement en utilisant des gnomons et ces principes de l'ombre, on en peut avoir des précisions qui sont vraiment, vraiment importantes. Un autre élément qui va être utilisé et qui va être une belle démonstration mathématique, toujours en utilisant les ombres, c'est la mesure de la Terre. Donc on sait que la Terre est sphérique. N'en déplaise à certains, la Terre est sphérique. Depuis le 5e siècle, le 6e siècle avant Jésus-Christ, on a Platon, on a Aristote qui ont déterminé qu'effectivement la Terre était sphérique par des mesures relativement simples. Par exemple, lors d'une éclipse de Lune, quand la Lune va rentrer dans l'ombre de la Terre, eh bien, on voit dessiner sur la Lune, on voit dessiner un arc. Si la Terre était plate, carrée, cubique, eh bien, on verrait arriver un cube. On ne verrait pas arriver un arc de lumière. Donc, on a considéré que la Terre était ronde, était sphérique, et donc, il restait à faire la mesure. Donc, Aristote, lui, il a fait la première mesure avec des estimations qui étaient un peu, on va dire, un peu philosophiques, qui n'étaient pas vraiment mathématiques. Lui, il a estimé qu'elle faisait apparemment 60 000 km. Donc, c'est très loin de la réalité, mais il a fait ça simplement des mesures avec de la philosophie, avec de l'estimation.
Ah bon ? Elle n'est pas plate ?
Non, la Terre, malheureusement, elle n'est pas plate. Alors, Ératosthène de Sienne, lui, il a déterminé en 230 avant Jésus-Christ, il a déterminé précisément la circonférence de la Terre. Il avait remarqué que Sienne est située, c'est à Souhon, hein, Sienne est située sur le tropique du Cancer. Ça veut dire que lorsqu'on va arriver sur les solstices d'été, eh bien, le soleil est pile poil au zénith. Ce qui veut dire que eh bien, le soleil il va éclairer. Et il a éclairé le fond d'un puits. Il s'est rendu compte qu'à cette période de l'année-là, le fond d'un puits est éclairé par la lumière du soleil. Et il avait remarqué qu'à la même date, à la même période, à Alexandrie, qui était située à une certaine distance, là, par contre, il y avait de l'ombre. Donc il s'est dit, si ici, c'est vertical, si le soleil est au zénith, et si à une certaine distance, eh bien, il y a une ombre, il suffira de calculer l'angle que fait cette ombre. Et en connaissant la distance entre les deux villes, eh bien, on obtient un triangle rectangle. Et en connaissant la base et en connaissant l'angle, on va pouvoir déterminer la circonférence de la Terre. Donc il va tomber, en faisant cette mesure-là, il va tomber sur un angle de 7 degrés, 7,2 degrés. Il connaissait, enfin il estimait à peu près la distance qu'il y avait entre Sienne et Alexandrie, qui était de 5000 stades. À cette époque-là, le stade, c'était une unité de mesure. Donc il y avait différents stades, il y avait des stades olympiques, ils faisaient 190 mètres, égyptiens, 157 mètres, le stade des 8000, 185 mètres. En fait, chaque ville avait sa mesure. Et donc lui, il a utilisé le stade égyptien et il donne une circonférence de la Terre, d'après ses calculs, de 39 375 km. Donc la mesure est très très proche de la réalité, parce que les mesures actuelles, on est à 40 075,02 km pour la circonférence à l'équateur et de 40 007 pour le méridien qui passe par l'épaule. Donc on voit qu'il était relativement très très précis en fait sur cette mesure-là. Et donc la Terre n'est pas plate, parce qu'il a trouvé la circonférence. Donc si la Terre était plate, quel que soit l'endroit où on était, l'ombre serait tout le temps la même partout. Donc la Terre est bien ronde. Et ça, il l'a démontré depuis 2500 ans, sans Internet, sans autre théorie farfelue, simplement avec un bâton qui est planté dans le sol.
Et tout ça avec un bâton, un simple bâton planté dans le sol.
Et oui, c'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. Donc l'intérêt de faire de la médiation scientifique, l'intérêt de faire cette démarche, d'expliquer, c'est simplement que des fois les démarches sont très simples. C'est pas la peine d'écouter des théories qui viennent d'un peu partout. Le fait de comprendre, ça évite les manipulations, ça évite de un petit peu se laisser emporter par des théories qui sont un petit peu farfelues. Donc ce gnomon qui a servi pendant longtemps, après on va lui mettre une table sur laquelle on va faire ses relevés, un petit peu ses relevés d'ombre, et c'est ce qu'on va appeler les cadrans solaires. Et on va retrouver des cadrans solaires un petit peu partout. Il y a des cadrans solaires qui sont énormes. Sur Jaipur, par exemple, en Inde, sur l'observatoire, eh bien, on a des gnomons de 3,50 m de haut, etc., avec des grandes tables et qui donnent précisément en fait, les heures tout au long de l'année. Et on va retrouver aussi ça chez nous, hein, on va retrouver dans pas mal de cathédrales où on trouve des méridiennes qui sont simplement des représentations sur des dallages avec, il y a un trou dans le mur de la cathédrale, le soleil passe et le point lumineux à midi tombe toujours sur un des points qui a été calculé et nous donne la date, par exemple. Et le gnomon a été utilisé aussi par la NASA, hein, la NASA, sur tous les petits rovers qu'on a envoyés, il y a un petit gnomon qui nous permet de calculer l'ombre et de calculer la position du soleil par rapport au petit rover qui est sur Mars, parce qu'on ne peut pas y aller, on ne peut pas être directement dessus. Donc on a fait tous ces essais-là, et ces gnomons sont vraiment très très utiles, même maintenant sur les dernières missions martiennes.
Finalement, un simple bâton a bien fait avancer nos connaissances, alors.
Oui, ben oui, c'est pas plus bête que ça, donc... Les connaissances, on est vite arrivé à une limite sur ces connaissances-là, c'est qu'on s'est retrouvé avec un problème de précision. C'est-à-dire que si on veut avoir des mesures très précises, il faut que nos instruments de mesure soient très précis. Et donc là, on travaillait sur le demi-degré, le quart de degré, et pour vraiment pouvoir faire des mesures, il faudrait travailler sur la seconde d'arc. Alors, pour mémoire, une minute d'arc, c'est 1 degré divisé par 60, et une seconde d'arc, c'est une minute d'arc divisé par 60. Ça veut dire qu'en gros, quand on travaille en seconde d'arc, c'est 1 degré, un tout petit degré, qui est divisé par 3600. Là, ça nous permet d'avoir des mesures qui sont très très précises et de vraiment pouvoir faire de la mécanique céleste. Il fallait vraiment des instruments très grands. Les premiers qui ont travaillé avec des instruments très grands, c'est par exemple Ulugbeg, qui a construit en Ouzbékistan, à Samarcande, un énorme observatoire dans lequel il a mis un cadran, il a mis un cercle, un sextant, on pourrait dire un sextant, qui avait un rayon de 40 mètres, ce qui fait qu'on pouvait faire des mesures vraiment hyper précises. Parce que plus l'instrument de mesure est grand, plus il est facile de pouvoir faire les tracés sur cet instrument de mesure. Donc lui, il a réussi à faire les premiers, on va dire, premières mesures précises. Et puis ça a continué. Tycho Brahe, par exemple. Tycho Brahe, c'est un astronome danois. Il était surnommé l'homme au nez d'argent parce que dans un duel, dans une bagarre, il avait perdu son nez, on lui avait coupé le nez. Et donc il avait une espèce de pièces en argent, de bijoux en argent qui lui remplaçaient son nez. Bien, Tycho Brahe, qui était issu d'une famille assez noble, il a réussi à se faire financer un observatoire par le roi Frédéric II du Danemark. Et dans une île, il a construit Uraniborg. Et Uraniborg, c'est un centre d'études, de recherche, mais surtout un centre de construction d'instruments. Et c'est lui qui a développé les sextants, qui a développé les cadrans, qui a développé tout un ensemble d'instruments de très très grande taille et qui a fait vraiment avancer la totalité de nos connaissances. Donc lui, ça va se limiter à un certain moment parce que cette génération-là, ce sera plus nécessaire de continuer à faire des instruments très très grands parce que on est à l'époque où on commence à avoir les lunettes et les télescopes qui sont développés. Et dans ces cas-là, on pourra aller directement faire des mesures avec ces instruments optiques. On n'aura plus besoin d'utiliser l'ombre, le soleil pour faire des mesures. Donc, à noter par exemple qu'un de ses disciples, un de ses élèves, c'était Kepler que tous les astronomes connaissent bien, qui a défini l'orbite de Mars et qui a défini toutes les lois qui fonctionnent dans notre univers. Donc la précision améliore la compréhension de l'univers et va créer des instruments utilitaires pour la marine, la cartographie. Donc après la pause musicale, je vous parlerai de deux instruments fascinants, l'astrolabe et la machine d'Anticythère. Eh bien, nous voilà de retour. Je vais vous présenter le premier instrument, c'est l'astrolabe. L'astrolabe, en gros, la traduction grecque veut dire preneur d'astres, astrolabos. Alors, c'est un instrument d'astronomique, d'observation, c'est aussi un instrument de calcul analogique. Donc, on ne sait pas trop qui l'a inventé. On l'attribue, on peut estimer qu'il était les premières notes, les premières informations sur ce type d'instrument. Ça vient à peu près entre moins 400 et plus 150, où au fur et à mesure, on a de nouveaux écrits qui nous donnent des informations sur ce potentiel instrument. Donc la création, ça peut être Exode, ça peut être Apollonius, ça peut être Hipparque, ça peut être Ptolémée, etc. Donc on ne sait pas trop, on a un premier traité qui parle de l'astrolabe au 4e siècle de Théon d'Alexandrie, qui présente un petit peu le fonctionnement de cet instrument. Alors cet instrument, c'est un petit instrument d'une vingtaine de centimètres de diamètre, en cuivre, richement décoré. Il n'est pas très très grand parce que c'est un instrument qu'on va utiliser très souvent à bout de bras. Donc il ne faut pas que ça soit très lourd parce qu'autrement ce serait très très compliqué. Alors il est composé de plein de petits sous-ensembles. On a la mer qui est en fait la base de notre instrument avec un limbe qui va être gradué. On a une alidade qui va être un viseur qui nous permettra de faire des mesures terrestres ou des mesures de hauteur d'astre par exemple. On aura ce qu'on appelle le tympan qui est la représentation de la sphère locale qu'on a remise à plat, qui représente l'endroit où on se trouve avec les méridiens, avec les hauteurs. Donc on pourra vraiment avoir notre sphère locale qui va être interchangeable, justement. On va utiliser aussi le fait qu'on puisse la remplacer. Ça va être très utile pour les marins, par exemple. Les navigateurs, avant, étaient obligés de faire une navigation, on va dire, à latitude constante, puisqu'ils se basaient aux étoiles. Donc, ils gardaient les étoiles de référence tout le temps à la même hauteur, et donc, ils naviguaient avec une latitude constante, qui était assez contraignant et dangereux pour eux. Le fait de pouvoir disposer, on va dire, d'un astrolabe, ça permettait de faire une mesure de notre étoile de référence, et si elle ne se retrouvait pas dans le bon endroit au bon endroit dans la sphère céleste de notre astrolabe, ça voulait dire qu'on avait bougé en latitude. Et donc il fallait changer le tympan pour trouver le bon tympan qui corresponde à la bonne hauteur. Donc c'était une méthode pour trouver la latitude à laquelle on naviguait. On va retrouver des règles pour des mesures, en fait, etc. Donc chaque astrolabe est différent, parce qu'on va le faire, c'est un kit qu'on va le faire, on va l'organiser en fonction de nos besoins. En fonction de ce qu'on veut faire, eh bien, on prendra un équipement qui va être différent. Alors, à quoi il sert ? Il peut mesurer les hauteurs des étoiles, du soleil, déterminer les heures d'observation de l'astre, à quel endroit il va se retrouver sur la sphère céleste, à quelle heure il va se lever, à quelle heure il va se coucher. On va mesurer la durée du jour, la durée de la nuit, on pourra s'orienter par rapport au soleil ou par rapport à d'autres objets, déterminer l'heure. Si on a la date, on peut trouver l'heure en fonction du positionnement des astres. Donc on voit que tout est possible, hein. Les heures des prières aussi, qui étaient, lorsque l'astrolabe a été développé dans le monde arabe, on trouvait aussi des calculs des heures des prières, on retrouvait tout un ensemble d'équipements, il y a des milliers de possibilités d'utilisation, et chacun va pouvoir les utiliser à sa main, et comme il en a envie, et les créer comme il en a envie. Alors il y a vraiment des astrolabes qui sont des bijoux, hein. C'est vraiment... Il y a une exposition, il y a effectivement au musée maritime de Greenwich, on a une petite collection d'astrolabes, de l'histoire des sciences à Oxford on en a aussi, mais la plus belle que j'ai vue c'est le musée maritime à Lisbonne, où là on a des dizaines d'astrolabes qui ont été richement décorés, richement travaillés, et qui montrent vraiment la totalité de ce qui peut être fait. Et les astrolabes ont aussi été utilisés pour des besoins spécifiques. On a décliné cet astrolabe là par exemple avec l'astrolabe nautique qui va permettre pour un marin de mesurer des hauteurs précises du soleil, voilà, en pleine journée. Donc on pourra à partir de là déterminer la latitude dans laquelle on se trouve, on pourra naviguer. Donc chaque astrolabe est modifié, chacun en fait ce qu'il en a envie. On reste sur le même principe avec une sphère locale qu'on va pouvoir mettre interchangeable. Par-dessus on aura une araignée, donc une espèce de... une partie qui va être ciselée sur laquelle on va retrouver toutes nos étoiles, on va retrouver tous nos repères. Et donc on pourra faire tourner le jour, cette araignée, elle est mobile. En la faisant tourner, on va pouvoir déterminer l'heure, on pourra déterminer la position. Donc c'est vraiment, c'est un fourre-tout, hein. C'est un smartphone avant l'heure, c'est une appli. On peut retrouver tout pareil maintenant, sauf que là, c'était en cuivre, c'était bien travaillé. Et ça faisait le même travail que tout ce qu'on pourrait trouver avec nos smartphones actuellement. Donc moi, c'est des instruments que je trouve fabuleux parce que ça montre l'ingéniosité des hommes. On en a parlé dès le début, c'est qu'à partir de ce qui existe, de ce qu'ils voient dans le ciel, ils arrivent à créer des équipements qui permettent justement de pouvoir être utilisés. Donc on a fait, si vous passez nous voir dans les animations, vous verrez, on a toute une reproduction de toutes les séries d'instruments anciens. Certains ont été actualisés pour être utilisés aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va pouvoir vérifier qu'effectivement ça marche, qu'on peut déterminer le nord avec un astrolabe. Donc certains ont été actualisés parce que...
Pourquoi ?
Parce que la Terre, elle ne tourne pas tout à fait comme une toupie, quoi. C'est une toupie en fin de vie. C'est une toupie, au lieu de tourner bien droite, elle a tendance un petit peu à bouger. Elle fait un cône, et ce qui fait que... Actuellement, l'étoile polaire, elle nous indique le nord, et dans 3000 ans, ce sera plus l'étoile polaire qui indiquera le nord, hein, puisque la toupie, elle va tourner un petit peu n'importe comment, voilà, donc c'est pas grave. Donc le deuxième objet que je voulais vous présenter, alors lui, il est encore plus étonnant, c'est la machine d'Anticytère. Alors Anticytère, c'est un objet qui est surprenant par le fait qu'on ne s'attendait pas à trouver un objet d'une telle qualité, d'une telle précision, daté d'aussi loin dans le passé. Donc la petite histoire d'Anticytère, s'il y avait un groupe de pêcheurs d'éponges qui partaient de Grèce, qui devait aller en Afrique du Nord, la météo n'était pas bonne, ils se sont mis à l'abri dans une petite crique à côté de l'île d'Anticytère, et ils ont attendu que ça se calme un petit peu, et profitant d'une accalmie, en fait, ils ont plongé pour voir s'il n'y avait pas des éponges disponibles là aussi. Et ils ont trouvé un cimetière complet en dessous, une épave de bateau à 60 et quelques mètres, une épave de bateau avec des dizaines de statues. Au début, ils croyaient que c'était des êtres humains, mais en fait, c'était que des statues. Et donc, ils ont remonté un petit peu, ils ont remonté quelques éléments de cette statue. Et donc, après, ça a été daté, hein, c'était une galère romaine qui est datée à peu près de avant 87 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'était apparemment un transport très riche de statues grecques en direction de Rome. Donc, ces fragments-là, tout a été remonté. Il y a eu beaucoup de séquences de renflouage, des essais, mais c'est très dangereux, il y a eu des morts. Donc, une fois que les principales statues ont été remontées, ça a été arrêté. Et donc, tout l'ensemble a été mis au musée. Et c'est que quelques années après que un conservateur du musée s'est rendu compte qu'effectivement il y avait des statues, mais il y avait un objet métallique avec des engrenages qui étaient dessus. Donc ils ne savaient pas du tout ce que c'était. Donc ils ont regardé, il y avait en gros trois gros morceaux, et il y avait 82 petits fragments qui traînaient. Et donc en regardant un petit peu ça, ils se sont dit, c'est quand même bizarre qu'on puisse faire des engrenages à cette époque-là. Voilà. Donc ça a été un peu creusé. Cousteau a refait une plongée en 76, il a récupéré quelques trucs. Et dans les années, en 1959, le premier analyse qui a été faite, c'était avec des rayons gamma. Ils ont balancé des rayons gamma là-dessus et ils ont pu voir qu'à travers ces fragments, il y avait une vingtaine de roues dentées qui existaient, qui étaient à l'intérieur de cet objet métallique complètement pris avec la rouille et puis avec les sédiments. Une vingtaine de roues dentées, il y avait des axes, il y avait des tambours, il y avait des aiguilles, c'était de l'horlogerie, quoi. Et donc c'était surprenant qu'à cette époque-là, on puisse se retrouver avec tout ça. Donc il y a eu d'autres essais qui ont été faits. En 2000, rayon X, on a été encore plus précis. Donc on sait que c'est grec parce qu'il y a des caractères qui ont été décodés, qui nous montrent que c'est grec. Il y a sur cette petite pièce, on va retrouver un mode d'emploi, on va retrouver un traité d'astronomie. Donc c'est un petit objet, hein. Il fait 20 cm de haut sur 16 cm de large. Il est épais comme un livre. En gros, 5 cm, hein, donc ça va pas chercher loin, mais c'est vraiment un objet qui est extraordinaire. Et je vous conseille d'aller, si vous avez l'occasion, d'aller vous renseigner un petit peu sur Internet. Il y a des sites qui sont vraiment très très sérieux. Et la question, c'est comment réussir à faire un objet aussi précis à l'époque. C'est-à-dire qu'il n'était pas possible de faire ça.
Une vraie prouesse de l'horlogerie, alors.
Ah, exactement, et c'est... Même actuellement, à part travailler avec des machines numériques, ce serait très très compliqué de pouvoir obtenir ce degré de précision. Un petit élément par exemple, on sait que dans les mouvements qui sont les mouvements stellaires, les mouvements de nos planètes, il y a des petites précessions, il y a des petites nutations, des petits mouvements qui font que des fois, la durée des années n'est pas tout le temps identique. Et bien dans ce système-là, qui a été détecté, il y a des petits plots qui font qui font qu'une roue dentée, elle ne tourne pas tout à fait ronde, elle est légèrement excentrique. Donc c'est vraiment de l'horlogerie de très haute précision, et ça servait à tout, c'est-à-dire qu'on trouvait le positionnement de toutes les planètes dans le ciel, on pouvait calculer les dates des Jeux Olympiques, on pouvait déterminer les prochaines éclipses, on pouvait... Donc tout un ensemble de connaissances de l'époque. On manipulait ça avec une petite manivelle, ça nous donnait l'information. Donc c'était une belle petite calculatrice. Donc on ne sait pas d'où elle vient, on pense que ça peut venir d'Archimède, on pense que ça peut venir d'Hipparque, ça peut venir de Posidonios. On ne sait pas encore réellement qui l'a fait, mais on sait que bon, c'est très très précis. Donc le mystère reste entier, essayez d'aller voir. Donc pour terminer, les quelques informations rapides, l'été arrive, on a des belles soirées d'observation qui se préparent. Donc pour nous retrouver, le 7 juin 2024, on sera à la Nuit des Légumes avec les Jardins de Donner, avec de la musique, concerts, cueillettes, dégustations, astronomie. Donc n'hésitez pas à passer au Jardin de Donner le 7 juin. Et le 15 juin, on sera pour la manipulation, pour l'animation On the Moon Again, où on sera sur les quais de Mont-de-Marsan, derrière le Café Musique, avec des télescopes pour que tous les gens qui se promènent dans la rue puissent venir passer un petit moment avec nous et bien sûr regarder la Lune entre autres, mais aussi d'autres objets du ciel. Et puis on aura nos grandes rencontres régionales d'astronomie amateur le 6 et 7 juillet. On aura l'occasion d'en reparler lors de la prochaine émission. Bien sûr, toutes ces animations sont toutes accessibles pour tout le monde, pour tout public et gratuitement. Donc lors de la prochaine émission, nous vous donnerons les petits trucs pour bien profiter du spectacle gratuit de nos belles nuits d'été. Donc retrouvez-nous en podcast sur Radio MDM ou passez nous voir le mardi soir ou le vendredi soir pour partager le ciel. Toutes les infos seront sur notre page Facebook Astro Club Marsan. Bon ciel à toutes et à tous et à bientôt. C'était Les Landes du Ciel, une émission proposée par l'Astro Club du Marsan. Nous vous donnerons rendez-vous le mois prochain. Retrouvez également cette émission dans les podcasts de Radio MDM.